En Caroline du Sud, une famille est prise en otage au cours d'un braquage de banque de haut vol. La police met en place un coup de filet pour arrêter les suspects, mais le chef des opérations parvient à s'échapper. Le FBI et les polices de quatre États américains allient leurs forces pour arrêter le fugitif armé, alors même que ce dernier est prêt à tout pour éviter la prison. Vous écoutez les dossiers du FBI. Prise d'otage en famille. Première partie.
Le fleuve Savannah marque la limite entre Augusta en Géorgie et Augusta Nord en Caroline du Sud. Du côté de la Caroline du Sud, un vendredi après-midi d'octobre 1995, Parker et Brenda Shaw rentraient chez eux avec leur petite fille Brianna. Ils la gardaient les vendredis après-midi parce que sa mère, Amy Shaw, travaillait plus tard ce jour-là comme caissière dans une banque. Parker tenta d'ouvrir la porte de garage, mais le dispositif d'ouverture à distance ne fonctionna pas. Ignorant que quelqu'un était tapi chez lui, il entra dans la maison pour aller ouvrir la porte de l'intérieur. Deux intrus attachaient rapidement Parker avec du ruban adhésif. Ils le forcèrent ensuite à aller dans la chambre à coucher. Dehors, Brenda commençait à s'impatienter. Brianna et elle se préparaient à aller vers la porte d'entrée quand la porte du garage s'ouvrit enfin. L'homme força Brenda à entrer dans la chambre où son mari était retenu par deux autres intrus. Les bandits prirent au couple argent et cartes de crédit. Puis, celui qui semblait être le chef annonça qu'il était venu chercher Amy, la fille des Shaw, car elle travaillait à la banque. Il ajouta qu'ils allaient l'attendre. Les intrus retinrent les Shaw captifs pendant plus d'une heure. À 19h, le chef ordonna à Brenda de se rendre au salon avec lui, laissant l'un de ses hommes surveiller le mari et sa petite fille. Ils attendirent l'arrivée d'Amy en regardant par la fenêtre. Ils connaissaient l'heure exacte de son arrivée. Pour Amy Shaw, c'était un vendredi soir comme les autres. Le malfaiteur ordonna à Brenda de se rendre à la porte d'entrée. Amy fut surprise de constater que la porte était verrouillée. Elle se douta aussitôt que la situation était anormale. Le chef saisit Amy. Il lui annonça qu'il les surveillait depuis un certain temps. Il connaissait leur emploi du temps et savait à quel moment ils pouvaient être attaqués. Il interrogea ensuite Amy sur le système de sécurité de la banque.
Okay, and the codes? Okay, and you have them? Do you have the codes?
Lors de son entraînement, Amy avait appris qu'il était plus prudent d'obéir aux ordres d'un voleur. Amy déclara qu'elle pouvait le faire entrer dans la banque, mais qu'il fallait deux codes pour ouvrir la chambre forte et qu'elle n'en avait qu'un. Il dit qu'il réglerait cette question une fois sur les lieux. Il la mit ensuite en garde. Si quelque chose ne tournait pas rond, il s'en prendrait à sa famille. Le chef de la bande annonça à ses complices qu'il se rendait à la banque avec Amy. Il leur demanda d'attendre son appel. Les parents de la jeune femme et sa fillette espéraient que le chef ne ferait pas de mal à Amy. En partant, le ravisseur retira sa cagoule pour ne pas avoir l'air suspect au public. À la pointe de son arme, Amy traversa le fleuve Savannah pour se rendre en Géorgie où était située la banque. Le malfaiteur ordonna à Amy de faire lentement le tour de la banque en voiture afin qu'il puisse voir si une équipe d'entretien ménager se trouvait à l'intérieur. En passant à côté du guichet automatique, Amy espéra que l'appareil capterait le visage de son ravisseur. Quand il vit qu'il ne courait aucun danger, celui-ci donna l'ordre de se garer près de la porte arrière. Une fois à l'intérieur, elle devrait lui expliquer ses moindres gestes afin qu'il s'assure qu'elle ne déclenchait pas le système d'alarme. Une fois de plus, il la menaça de la tuer si elle n'obtempérait pas. Une fois à l'intérieur, Amy lui montra les systèmes d'alarme qu'elle pouvait désactiver. Elle lui expliqua alors qu'elle ne pouvait pas ouvrir la chambre forte seule. Elle connaissait une des combinaisons et l'une de ses collègues connaissait l'autre. Le ravisseur rappela à Amy qu'aucun mal ne serait fait à sa famille si et seulement s'il pouvait entrer dans la chambre forte. À la maison des chats, les intrus avaient forcé la famille à rester dans le salon d'où ils pouvaient surveiller l'avant de la maison. Les chats espéraient que cette terrible mésaventure se terminerait sans incident, mais leur ravisseur était de plus en plus nerveux et prêt à tirer. D'ailleurs, un de leurs pistolets fit feu accidentellement. Les intrus craignaient que le coup de feu n'ait alerté les voisins. Ils furent encore plus inquiets quand ils virent une voiture se garer devant la maison. Somebody's coming. Get over by the door. C'était leur autre fille, avec son mari et leur fillette, qui leur rendaient visite.
Mom.
Ils furent maîtrisés dès qu'ils entrèrent dans la maison. Les ravisseurs devaient maintenant surveiller 6 otages. À la banque, le chef de la bande ordonna à Amy d'appeler sa collègue pour obtenir la seconde combinaison. Quand Amy lui demanda la combinaison, sa collègue hésita à la lui donner car elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Amy tenta de lui faire comprendre que sa famille était retenue captive. L'intrus lui arracha l'appareil des mains, menaçant la collègue d'aller chercher lui-même la combinaison. La collègue donna finalement la seconde combinaison pour protéger Amy. Le ravisseur garda la collègue en ligne pour s'assurer qu'elle n'appellerait pas la police. Amy introduisit en tremblant la deuxième combinaison. Mais la chambre forte ne s'ouvrit pas. Amy fit une nouvelle tentative. La porte s'ouvrit enfin. Le voleur s'assura qu'Amy garderait sa collègue au bout du fil. Il lui ordonna ensuite de lui indiquer quel casier contenait l'argent classé par numéro de série et lesquels contenaient des sachets de teinture prêts à éclater. Il n'y toucha pas. Après avoir pris l'argent, le ravisseur d'Amy lui ordonna d'appeler ses parents sur une autre ligne. Le chef ordonna à ses complices de faire ce qu'il fallait à la maison, de partir et de l'aviser par téléavertisseur une fois en sécurité. Il s'enfuit avec plus de 86 000 dollars. Quand il fut parti, Amy déclencha le système d'alarme pour qu'on vienne l'aider. Puis, pétrifiée d'angoisse, elle appela chez ses parents. Sa mère lui ordonna de ne pas appeler la police. Les hommes armés étaient toujours là. Mais il était trop tard. Les hommes s'assurèrent que les membres de la famille étaient encore ligotés. Ils semblaient sur le point de partir. Mais l'un d'eux hésitait. Il y avait 6 témoins gênants à ce crime. À 20h, les agents du service de police de Richmond County répondirent à l'appel de la banque en Géorgie pour apprendre que le crime le plus grave avait été commis de l'autre côté du fleuve. L'enquêteur en chef était Kenneth Booth.
On a transmis toutes les informations au bureau du shérif d'Edgefield County en leur disant que la famille était peut-être encore captive.
L'enquêteur Don Bullock du bureau du shérif d'Edgefield County en Caroline du Sud prit l'appel.
C'était un cas de prise d'otage. Pour nous, c'était un code 1, ce qui signifie qu'on doit se rendre sur les lieux le plus vite possible.
La famille avait appelé pour dire que les hommes étaient partis, mais les policiers devaient s'en assurer. Les agents fouillèrent la maison pour s'assurer qu'il n'y avait plus d'intrus.
Ils étaient sains et saufs. Physiquement, ils étaient en santé, mais mentalement, c'était une autre histoire. Ils avaient traversé une grosse épreuve.
Les Shaw décrivirent les hommes du mieux qu'ils le purent. Ils n'avaient pas vu leur visage. Ils étaient armés et agressifs. L'un d'eux avait braqué son arme sur Parker Shaw. Mais il n'avait pas tiré. Une fois leurs assaillants partis, les Shaw s'étaient libérés de leurs liens et ils avaient attendu l'arrivée des policiers. Parker déclara que les hommes avaient pris les clés de la voiture de son gendre. Il décrivit également leurs vêtements. Les policiers transmirent l'information à toutes les unités de patrouille. Comme c'est toujours le cas lors d'un vol de banque, les autorités de Richmond County avisèrent le FBI. L'agent spécial Jerry Jones, du bureau d'Augusta en Géorgie, rencontra Amy pour l'interroger. Elle lui décrivit le chef de la bande et lui indiqua dans quelle direction il était parti. Elle déclara qu'elle croyait qu'un appareil avait capté son image et parla à l'agent Jones de la caméra du guichet automatique à l'extérieur de la banque.
Elle avait tenté de le faire s'approcher suffisamment pour que l'appareil puisse capter son image. Malheureusement, celui-ci n'était activé que lorsque quelqu'un introduisait sa carte bancaire dans le guichet. Ça n'a donc pas fonctionné.
Les caméras à l'intérieur ne l'avaient pas filmé non plus. L'enquêteur Bullock arriva sur la scène du crime à Augusta Nord, où les experts le mirent au courant de l'état de la cueillette des indices. Des techniciens de la division des autorités policières de la Caroline du Sud avaient relevé des empreintes huileuses de chaussures sur le sol du garage et les avaient photographiées pour d'éventuelles comparaisons. Dans la maison, les techniciens trouvèrent la douille du projectile tiré dans le salon. Elle provenait d'un pistolet de calibre 38, mais il n'y avait aucune empreinte digitale. Toutes les tentatives pour relever les empreintes digitales des assaillants échouèrent. Ceux-ci portaient des gants qu'ils n'avaient jamais ôtés. Au bout de l'allée, les enquêteurs trouvèrent un véhicule coincé dans le fossé.
Quand les deux suspects ont quitté la maison, ils voulaient prendre une voiture et ils sont revenus à l'intérieur chercher la clé d'une des victimes.
Détective Don Bullock.
En faisant marche arrière, ils sont tombés dans le fossé et ne sont pas parvenus à en faire sortir la voiture. Ils ont donc dû partir à pied.
Les techniciens trouvèrent des empreintes digitales inconnues dans la voiture. Autant d'indices qu'ils pourraient comparer plus tard à d'éventuels suspects. Non loin de la maison, ils trouvèrent de nombreux objets qui, croyaient-ils, avaient été abandonnés par les assaillants en fuite. Il y avait de nombreuses armes, notamment un fusil de chasse et un Magnum 357. Des vêtements, des cagoules et des gants trouvés dans les buissons correspondaient à la description des vêtements des assaillants. Sans ces vêtements, les suspects ne ressemblaient guère à la description transmise aux unités de patrouille. Les policiers mirent toutefois les informations à jour. Deux sans doute à pied et un autre à bord d'une berline bleu foncé. Ils étaient armés et dangereux. En 1995, les autorités de la Caroline du Sud et de la Géorgie étaient à la recherche de trois hommes qui avaient retenu en otage les membres de la famille Shaw et volé une banque. Moins d'une heure après l'appel au service d'urgence, un policier qui n'était pas de service se rendait à la maison des Shaw quand il entendit sur sa radio la nouvelle description des suspects. Il aperçut alors deux hommes qui correspondaient quelque peu aux informations et qui s'éloignaient du secteur. Le policier interrogea les deux hommes, comme nous le raconte l'enquêteur Don Bullock.
Il leur a demandé ce qu'ils faisaient là. Ils ont répondu qu'ils revenaient du terrain de l'église où ils avaient joué au basket. Or, ils n'avaient pas de ballon et ils étaient à pied.
Des renforts arrivaient rapidement. Les policiers savaient que le terrain de basket à côté de l'église n'était pas éclairé.
Il était tard et il faisait noir. Il a vite compris qu'il s'agissait sans doute des suspects.
Les deux hommes acceptèrent de se rendre à un poste de relais de la police près de la maison des Shaw pour y être interrogés. On les identifia comme étant Daniel Evans et LaMarco Roscoe. À la banque, l'agent spécial Jerry Jones apprit que deux hommes étaient détenus provisoirement.
J'ai décidé de quitter la banque quand j'ai vu que la caissière était en sécurité. J'ai traversé en Caroline du Sud pour y interroger les deux suspects.
Jones arriva au poste de relais presque au même moment que les suspects. L'enquêteur Kenneth Booth et lui savaient qu'il était préférable de les interroger séparément.
On les a séparés parce que généralement, ça les décontenance. Ils se demandent ce que l'autre a dit. Quand ils se rendent compte que l'autre a peut-être parlé avant eux, ils commencent à collaborer.
Les deux hommes avaient été incapables de décrire l'église où ils prétendaient être allés jouer au basket. Les enquêteurs avaient le sentiment qu'ils étaient mêlés au crime. L'agent spécial Jones commença par interroger LaMarco Roscoe.
D'abord, vous tentez de découvrir ce qui pourrait leur faire peur. Ont-ils quelques lourds secrets à cacher ou quelque chose de ce genre? Dans ce cas-ci, ce qui a impressionné Roscoe, c'était la possibilité qu'il soit condamné à mort.
Jones savait qu'Amy était en sécurité, mais il était prêt à parier que Roscoe, lui, ne le savait pas. Il lui dit alors qu'il se préoccupait beaucoup de la sécurité d'Amy.
Je lui ai dit que si le troisième assaillant tuait la jeune femme, il risquait la chaise électrique pour complicité dans ce vol.
Agent spécial Jerry Jones.
Je ne lui ai jamais menti. Ma principale préoccupation, c'était la sécurité et le bien-être de la caissière. De plus, je ne mentais pas en lui disant que si le troisième ravisseur tuait Amy, lui et son complice pourraient être condamnés à mort.
Le suspect ne tarda pas à reconnaître qu'il était impliqué dans le crime. Quand on lui demanda comment s'appelait le chef de la bande, il déclara qu'il ne le connaissait que par son prénom, Chris. Il croyait que la première lettre de son nom de famille était un J.
Un autre des policiers connaissait bien les voyous d'Augusta. Il a reconnu ce nom et lui a demandé s'il parlait de Christopher Jaberk. Le suspect a répondu que c'était bien lui.
Jones interrogea ensuite l'autre homme, Daniel Evans.
Je lui ai dit que son complice était déjà passé aux aveux et il m'a immédiatement raconté ce qui s'était passé ce soir-là. Je voulais qu'il me confirme le nom du troisième complice de son propre chef et il m'a tout de suite dit qu'il s'appelait Christopher Jaberk.
En parlant à Roscoe et Evans, les enquêteurs se rendirent compte que les deux hommes étaient sous les ordres de Jaberk.
Ce n'étaient pas eux, les cerveaux qui avaient orchestré toute l'affaire.
Kenneth Booth, enquêteur en chef.
Ils ne savaient pas grand-chose de ce qui se tramait, si ce n'est ce qu'ils avaient fait au cours des derniers jours. Cela avait principalement consisté à accompagner Jaberk à plusieurs reprises à différentes banques et à échafauder le plan de ce vol.
Après qu'il eut terminé les interrogatoires préliminaires, Jones apprit qu'on avait trouvé le numéro de téléphone d'un téléavertisseur sur l'un des deux suspects. Il demanda à l'un des agents de composer ce numéro. Quand le propriétaire du téléavertisseur rappela, le policier s'identifia. Son interlocuteur lui dit alors qu'il s'appelait Chris Jaberk. Il déclara qu'il se trouvait à 150 km de là, au Mont Vernon, en Géorgie. Jaberk était sur la défensive, et avant de raccrocher, il demanda au policier si celui-ci l'accusait de quelque crime. Les enquêteurs se rendirent sans tarder à la maison de Jaberk.
Il était bien connu des autorités.
Kenneth Booth, enquêteur en chef.
Et les policiers savaient déjà où il vivait.
S'il était le chef de la bande, il savait maintenant qu'il était recherché par la police. Avec une bonne avance et $86,000 en argent liquide, Christopher Jaberk pouvait être n'importe où.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Peter Cooper et David O'Donnell. Il a été réalisé par John Cavanaugh. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koslevic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assisté de Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Olivier Citroux.